Après, c'est mieux cadré que Villeneuve dans Dune, hein, je te le dis, moi.
Moteur, moteur!
Vas-y, vas-y, Jean-Pierre!
Moteur! Moteur!
Allons-y!
Moteur! Oh putain, moteur!
Bonjour à toutes et à tous, je suis Grégoire et bienvenue dans La Séance, le podcast qui aime autant les fauteuils rouges capitonnés du cinéma que les canapés confort de nos salons et qui revient tous les 15 jours vous parler d'un film ou d'une série. Et aujourd'hui, derrière le rideau de La Séance, direction le nord de la France pour le film de science-fiction de 2024, avec Sabre laser et Dune de sable, le bien nommé L'Empire de Bruno Dumont.
Les temps sont proches.
Sire, vous voici enfin parmi nous.
Ne tardons pas.
Nous livrons bataille pour la cause dont vous êtes la souveraine, ici sur la Terre.
Vous avez pas vu un ovni ?
Un quoi ?
Un ovni.
Les humains sont attachants.
C'est pour cela que nous allons envahir la Terre tout entière.
Le prince des ténèbres doit être enlevé de la surface de la Terre.
Un film qui entrechoque violemment lutte du bien contre le mal, ch'ti humain contre héros intergalactiques, vaisseaux spatiaux contre cathédrales volantes. Oui, rien que ça. Alors que vaut cette nouvelle virée loufoque, burlesque, what the fuckesque ? On cherche nos mots de Bruno Dumont dans la veine de sa mini-série Petit Quinquin ou de Malout. Non, nanar cosmique ou méditation sur la place de l'homme dans l'univers ? On en parle avec trois guerriers aux accents divers, trois chevaliers du mauvais goût que la cancel culture n'effraie pas. Salut Julien, quand je pense cancel culture, je pense d'abord à toi. comment ça va ?
Ça va bien. Content d'être là pour parler d'un, presque d'un ovni, quoi. Je sais pas comment dire.
Exactement. Dim est également avec nous qui a pu le voir ce film.
C'est quoi ce bordel là ? On enregistre ?
Ouais, salut,
je suis flop. On dira bonjour à Yao aussi juste après qui est avec nous, mais là qui a une petite urgence familiale à gérer avec son fils, donc on lui redira bonjour juste après, mais il sera là et il sera présent notamment, vous l'entendrez peut-être pas trop pendant le film parce que il a pas eu le temps de le voir, mais il y aura le quiz à la fin du film et là normalement il participera pour mettre une grosse raclée à Dim. Moi j'essaye même plus parce que je suis loin derrière. Et voilà, moi je suis là aussi pour le film parce que je l'ai vu. On va peut-être commencer à parler du film. Avant de donner nos avis, on va peut-être déjà, Julien, faire une petite présentation, un petit pitch du film, nous rappeler un petit peu ce que c'est que cet OVNI, justement, comme tu le disais.
Ouais, je vais présenter le film et puis peut-être un petit peu rapidement introduire qui est Bruno Dumont. Donc, le pitch du film, on est dans le nord de la France, hein, plus précisément sur la côte d'Opale, et parmi les habitants tranquilles se cachent des guerriers et des chevaliers dont les empires intergalactiques s'affrontent dans une lutte entre le bien et le mal. Et l'objet de cet affrontement, hein, c'est le Margat, comme ils appellent ça, hein, un jeune marmot d'un couple séparé, mais surtout le prince et la bête de la fin des temps. Voilà, c'était pas évident à résumer, hein, parce que je pense que si on essaie de rentrer dans l'histoire des 1, des 0, tout ça, je pense qu'on va pas y comprendre grand-chose. Belzébuth, la reine, tout ça, ça va être peut-être un peu obscur. Donc je me suis dit, on va faire assez simple. Hein,
Je pense que déjà, le pitch montre bien un petit peu le côté what the fuck-esque, comme on le disait un petit peu en intro du film, parce que même en étant relativement restreint, le pitch, tu sens qu'il y a du potentiel derrière. Donc voilà, Bruno Dumont, du coup, tu disais, toi, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais ?
Alors, c'est un cinéaste que je connais, mais dont je suis pas très familier de l'œuvre, et je pense qu'on l'a jamais traité sur dans Upcast, peut-être Dim dans un conseil.
Et je crois que Dim une fois avait fait un conseil une fois sur.
Ah peut-être, c'est possible. Hein, je me rappelle plus, mais c'est possible.
Donc en fait, alors il a démarré dans le cinéma notamment avec, on va dire, avec des films. Alors ça reste toujours des films d'auteur, mais plutôt dans la veine de Bresson, un côté de cinéma assez anti-naturaliste ou non-naturaliste, avec pas mal de non-jeux, hein, puisque c'est quelqu'un qui tourne beaucoup avec des acteurs amateurs, et on le verra aussi dans L'Empire. Il a d'ailleurs des professionnels depuis assez, il y a peu de temps, il a commencé par vraiment des castings complètement, enfin full amateur, et après il a mis des acteurs, voilà, des acteurs professionnels, comme c'est le cas dans celui-là où on va retrouver, bah voilà, 3-4 acteurs professionnels parmi d'autres acteurs amateurs. Et là on est, on va dire, dans sa veine burlesque, hein, c'est-à-dire qu'il a plusieurs couches. Il y a des premiers films comme La Vie de Jésus, comme L'Humanité, qui étaient des films plutôt assez durs. Et là il a, depuis, on va dire, bah, Petit Quinquin, Maloute, hein, introduit une veine plutôt loufoque, burlesque. Je saurais pas trop comment la qualifier en fait, parce que elle mélange pas mal de degrés différents. Je sais même pas s'il y a des degrés, parce que le film est quand même assez premier degré. Et c'est assez unique finalement dans le paysage français, c'est-à-dire que c'est pas un film que tu vois tous les jours. D'aucuns diront, heureusement, hein, on verra les avis de certains. Et en plus, d'autant plus avec un film qui est une sorte de, bah, de film de science-fiction dans sa terre natale, c'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas faire un film de science-fiction ailleurs, il amène le film de science-fiction dans son univers propre, c'est son univers du nord de la France, où il tourne beaucoup. Je crois que c'est dans je crois que c'est le Boulonnais, hein, ça va être un nom comme ça, la Côte d'Opale, je la citais. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est, moi je trouve, assez intéressant, dont j'ai toujours eu envie de voir les films, et surtout la partie comique. J'avais vu un petit bout de Maloute, mais je sais que le grand spécialiste, ça va peut-être surprendre pour un cinéma d'auteur français, c'est Dim, hein, qui est quand même un grand grand fan du Petit Quinquin.
Alors spécialiste, ouais, c'est vite dit, parce que c'est le premier film que je vois de lui, hein. J'avais surtout vu les deux séries, Petit Quinquin et Coin Coin, la suite. Et j'avoue que ça me faisait vraiment hurler de rire. Et même encore, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, je vous avais envoyé le best-of. Et c'est exceptionnel, quoi. Je l'ai cherché pour vous. Je me suis dit, je vais juste regarder 2 minutes. Et en fait, j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout, tellement que ça me fait marrer. Et c'est pour ça que ce film, je l'attendais quand même beaucoup. Mais de là à dire un spécialiste, comme je disais, c'est le premier film que je vois de lui. Je savais même pas qu'il était dans un registre plus sérieux au début de sa filmographie. Tu vois, tu me l'apprends, mais ça m'intrigue. J'aimerais bien aller voir ses premiers films, du coup.
Et d'ailleurs, pour préciser, alors il y a un lien avec Petit Quinquin, puisqu'il y a les deux inspecteurs de la Gendarmerie nationale qui sont également dans l'Empire. Et il y a un autre lien, c'est que, en fait, dont je parlais du Margat, hein, le marmot, le blond, qui est d'ailleurs peut-être un des meilleurs acteurs non professionnels du film, on va en parler, c'est Freddy. Et en fait, c'est le personnage de La Vie de Jésus, donc le premier film de Bruno Dumont. Je crois que c'était d'ailleurs un acteur qui s'appelle, il me semble, David Douche, qui est décédé en 2015, malheureusement. Un type qui a fait qu'un seul film, qui a eu une carrière assez particulière, qui est un enfant de la DAS, après qui est mort en fait dans l'incendie de sa maison. Ouais, c'est pas très gai, hein, pour tout. Et voilà, et donc je pense que c'est un petit hommage de Bruno Dumont, puisque ce personnage-là reboucle avec son premier film, La Vie de Jésus.
Voilà, pour le petit contexte sur Bruno Dumont et sur le film, on va s'en amuser à critiquer tout ça. Alors, exceptionnellement, dans ce podcast, on s'est dit, a priori, qu'il n'y aurait pas de partie spoiler, parce que ce n'est pas vraiment un film qui appelle les spoilers. Donc, on va juste donner nos avis. Ça va peut-être être un peu plus court même, hein, que d'habitude, on va voir. Mais comme d'habitude, avant qu'on fasse, qu'on donne nos avis un peu plus détaillés, on va faire peut-être un mot ou une expression chacun pour un peu synthétiser ce qu'on en a pensé. Et on va commencer avec Dim. Dim, du coup, en un mot, une expression sur ce film, tu dirais quoi ?
Déroutant.
Déroutant, ok.
Moi, j'ai mis sidération.
Sidération. Et moi, je vais dire détestablement adorable. Voilà. Donc, on va se débrouiller avec ça. Déroutant, je pense que c'est un mot qui... Déjà, on pouvait ressentir que c'était un peu déroutant dans le pitch de Julien, Dim. Est-ce que, du coup, déroutant, ça nous en dit pas beaucoup plus sur ton avis, par contre ? Donc, j'aimerais bien t'entendre un petit peu sur ce que t'as pensé de ce film.
Bah, déroutant, en fait, c'est pas vraiment le film que je trouve déroutant, parce que je connais déjà l'univers vis-à-vis des deux séries que j'ai citées tout à l'heure. Mais c'est plus ma vision du film, parce que, justement... Je trouve que le film ressemble quand même et a un peu le même ton que les séries, mais s'en éloigne aussi, quoi. Et ça, je m'y attendais pas. Parce que, voilà, je trouve que les séries Quinquin et Coin Coin, bah, je trouve que c'était deux séries que j'avais vraiment mais adorées. Alors, je m'attendais pas à aimer ça. On me les avait conseillées, j'y allais un peu à reculons, puis finalement, je me suis laissé emporter par les deux saisons et que j'ai trouvé vraiment... hyper forte, tout simplement parce que je trouve que c'est le mix parfait entre Seven, X-Files et l'émission Striptease. C'est vraiment... c'est un mélange bizarre et vraiment la limite du casse-gueule, mais à la limite du casse-gueule, ça marche, ça fonctionne. Je sais pas, c'est peut-être un miracle, mais en tout cas, je trouve que ça marche super bien. Et là, bah, c'est plus Star Wars Dune, et encore une fois aussi mélangé à Striptease, mais je trouve que ça marche beaucoup moins. Je trouve que le rythme, là, il est plus lent. Même s'il y a des passages qui m'ont quand même fait marrer, hein, où j'ai retrouvé un peu quand même l'esprit des deux séries, j'ai trouvé que c'était quand même moins drôle. Et j'avoue que moi, si je regarde ce genre d'œuvre, bah, c'est vraiment pour me marrer. Et là, ça a moins marché sur moi. Et bah, surtout, hein, vraiment énormément déçu d'avoir moins vu le fameux duo de la gendarmerie. Je sais pas trop, on va dire, j'ai pas regardé les dates de tournage de Quinquin et de Coincoin, mais j'ai l'impression qu'ils ont pris un énorme coup de vieux. Et d'ailleurs, celui qui fait le commissaire, je crois qu'il a qu'une seule ligne de dialogue. Il parle quasiment pas du film, alors que dans les séries, il était quand même beaucoup plus bavard. Hein. Ce que je vous ai montré hier, voilà, vous avez pu peut-être le vérifier. Et je me demande si... Ouais, il est peut-être pas malade ou j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il les a vraiment mis juste peut-être plus pour le clin d'œil et relier les univers, peut-être, je sais pas. Mais j'ai pas trouvé qu'ils étaient tellement nécessaires au métrage. Et ça, j'avoue que ça m'a déçu, parce que je les ai vus dans la bande-annonce, et moi, j'attendais à fond, on va dire, leur retour, parce que c'était mes persos préférés des séries, ils me font trop, trop marrer, et du coup, bon, bah voilà.
T'as pas eu l'impression... Alors, pour ceux qui ont jamais vu un film de Bruno Dumont, qui voient pas à quoi ils ressemblent les deux, t'as un peu l'impression qu'ils viennent de faire un AVC, quoi. Et que, tu vois, il les fait jouer alors qu'ils ont fait un AVC, quoi. C'est assez ouf.
Ah non, c'est mais ça. Le plus vieux des deux, notamment, comme il a plein de tocs et plein de mimiques. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un de démangé par les tocs, quoi.
Mais justement, dans Coincoin, il parle d'AVC à un moment donné, le personnage. Mais pas pour lui, hein, sur un autre personnage qui est encore plus bizarre qu'à lui.
Ah, putain.
Donc voilà, je sais pas. Mais pourtant, enfin voilà, j'ai beau avoir été déçu, il y a quand même, je trouve, quand même certains bons points. Moi, j'aime bien hein, le mélange acteur professionnel et amateur, même si ça joue pas toujours très bien, hein, n'est-ce pas, le personnage de Rudy, par exemple. Mais voilà,
un génie.
J'ai de la tendresse quand même pour ces mecs, tu vois, enfin qui sont pas des vrais acteurs, mais qui jouent quand même et qui se donnent à fond. Et je trouve que c'est top. Moi, j'aime beaucoup, on va dire, cet effet de style. Et ce qui m'a hyper surpris aussi dans le film, c'est que c'est un film qui a beau être hyper second degré, où tu t'attends limite à chaque effet spéciaux de voir vraiment du nanar absolu, bah, j'ai trouvé que les décors, les designs, les costumes des méchants, les zéros il me semble, je sais plus si c'est les zéros ou les 1, on va dire qu'ils sont tous de noir vêtus, enfin qu'ils ont une espèce de peau noire, des danseurs ou des musiciens, j'ai trouvé ça super, super stylé. Même les effets spéciaux numériques, c'est pas trop mal fait. Le sound design, la voix des bonhommes, enfin surtout les masses noires quand elles parlent, c'est assez impressionnant au ciné. Enfin, bon, c'est plus des espèces de grognements qu'autre chose, mais j'ai trouvé que ça rendait plutôt bien. Et j'étais super surpris aussi de voir ça. J'étais étonné parce que je m'attendais pas à voir des designs aussi soignés. Même les vaisseaux sont hyper bien faits. Bon, il y en a une, il y a un vaisseau, c'est une cathédrale, mais je trouvais que c'était original, c'était quand même vraiment bien trouvé. Et à côté de ça, bah ouais, on a le film qui se passe dans le nord et il se passe pas forcément grand chose. J'ai trouvé ça moins drôle que ce que j'avais pu voir de lui précédemment. Donc ouais, un petit peu mi figue mi raisin, un peu déçu. J'ai pas passé un mauvais moment, je dirais pas que c'était atroce, parce que j'ai entendu des gens, moi, qui me disaient qu'ils étaient sorti de la salle au bout d'une demi-heure tellement qu'ils en pouvaient plus. Moi, c'était quand même pas le cas, quoi. Je me suis quand même un peu marré et j'ai pas détesté, mais voilà, une petite déception.
Ouais, salut, bonjour à toutes et à toutes, hein, désolé.
Salut.
J'ai une question, je sais pas, t'as parlé de Lucchini ou pas?
Non, je l'ai même pas évoqué, bah, mis à part qu'il y avait des acteurs pros. Bah, il est pas mauvais et je me suis fait une réflexion après le film. Je crois que c'est le premier film que je vois avec Lucchini. J'ai pas de souvenir d'avoir vu de film avec lui. Et non, je trouvais qu'il faisait bien le taf, mais il m'a pas plus marqué que ça, on va dire. C'est pas peut-être le personnage le plus marquant pour moi, mais voilà, il remplit quand même bien son contrat, on va dire. Ah bah, je pense qu'il s'amuse. Il s'amuse et je trouve que ça se ressent à l'écran qu'il s'amuse bien. Et ça, oui, ça fait plaisir. Hein. Mais de toute façon, je pense que tous les acteurs sont quand même bien marrés à faire ce film. Hein.
Bah, Dumont expliquait que, d'ailleurs, Lucchini, quand il avait lu le scénario, il avait eu du mal à comprendre son personnage. Quand tu vois le film, t'as aussi du mal à comprendre son personnage. Mais en fait, il disait qu'à partir du moment où il avait eu le costume, donc un costume apparemment inspiré de Murnau et de Louis Jouvet, donc un espèce de truc un peu avec des motifs un peu chelous, le costume...
Ça fait un peu Arlequin
ça
aussi.
Fait un peu, ouais, ça fait un peu Arlequin. Ouais. Et apparemment, dès qu'il a mis ce costume, il a compris un peu le personnage. Je sais pas si le personnage il est très compréhensible d'ailleurs. Hein, parce que, en fait, il s'appelle Belzébuth. Ouais. Mais tu le sais qu'à la... Enfin, moi, il me semble pas que dans le film, on l'appelle Belzébuth.
Il me semble pas que
il
ça
me semble pas. Hein, c'est quand j'ai vu à la fin...
Non, c'est ça. Il est que dans le, ouais. que dans le générique.
J'ai dit, mais est-ce que tu avais vu d'ailleurs qu'il y avait un décor qui était aussi celui de Star Wars? Dans le...
Ah non, tu me l'apprends, non, j'ai
bah
pas
fait. C'est tourné à Naples dans un palais italien et je crois que c'est peut-être dans l'épisode 2.
Oui, ça doit être dans l'épisode 2, je pense.
Et d'ailleurs, Bruno Dumont racontait l'anecdote que voilà, il disait on a tourné dans les mêmes décors que Star Wars.
Ah bah ça ressemble, hein. Moi j'ai confondu. Hein.
Et vous parliez du casting, mais il y a aussi Camille Cotin, non?
Ouais, tout à fait.
Ouais, elle a pas une. Non, on la voit pas longtemps, hein. Peut-être 5 minutes à l'écran.
Et elle est habillée, parce qu'on pourra parler tout à l'heure des personnages qui sont pas trop habillés. Voilà, hein. On en parlera.
Et j'avais une question, mais je sais pas si vous savez, Julien ou Dim, ou peut-être même Yahoo, si t'as l'info, mais le personnage principal méchant, on va dire, le chevalier noir, le père du
Johnny,
là, ça c'est un acteur. Ouais, Johnny, c'est un acteur pro ou c'est un acteur pas pro, ça?
Mais je dirais pas pro d'instinct, mais je suis pas sûr.
Même pas d'instinct.
Moi aussi, j'aurais dit pas pro d'instinct. Mais je. Parce que qu'est-ce que tu fous l'auto? Ça qui n'arrête pas de répéter. Mais
ta gueule, toi!
Ta gueule, toi!
J'ai plein de questions. J'ai pas vu. Est-ce que c'est quand même un film de cinéma? Ça se voit en salle ou c'est un film du dimanche soir, techniquement?
Ah, moi, je dirais que ça se voit en salle quand même, comme je disais, pour certains plans, effets spéciaux, même sound design, je trouve que ça rend bien dans la salle.
Ouais.
Après, c'est pas du grand spectacle non plus, hein, faut pas déconner.
Après, c'est mieux cadré que Villeneuve dans Dune, hein, je te le dis, moi. Et c'est mieux monté. Et c'est mieux monté. Non, c'est mieux monté et c'est mieux cadré que Dune.
Ah, dommage que je sois pas là, Jérémy.
Ça peut se voir un dimanche soir entre potes bourrés. Hein. Ça peut être un film de type... un film à boire, tu vois.
Elina Koudry, c'est un peu notre Zendaya française. Hein.
Ouais. Ouais, c'est vrai.
Mieux cadré.
Ouais. Voilà pour le déroutant de Dim, déroutant même sur l'avis de ce qu'on en a pensé de ce film. On va rebondir encore, Dim, aussi sur ton avis. On va enchaîner avec Julien, mais n'hésite pas, on va en reparler. Puis avec les questions d'Yao, ça va nous aider aussi à nous faire un avis sur ce film qui, vous l'avez compris, est assez foutrasque et compliqué à décrire. Julien, du coup, sidération, toi, c'est un peu parti pareil comme moi, j'ai l'impression. T'es resté sidéré devant l'écran.
Pour deux raisons. Pour le côté what the fuck du film, c'est-à-dire, on a parlé... Moi, j'ai trouvé un petit peu un côté Twin Peaks, notamment saison 3. Et par exemple, quand tu parlais des deux inspecteurs, il y a une petite musique un peu jazzy dès qu'ils sont là, qui fait très, très Twin Peaks. D'ailleurs, il paraît que Petit Quinquin faisait un petit peu aussi Twin Peaks. C'est toujours ce côté, quand tu mets des meurtres un peu bizarres, là, il y a des têtes coupées, bon, c'est un peu moins sûr du thriller. Mais en fait, Sidération aussi, je trouve que c'est un excellent film de science-fiction. Bizarrement, alors c'est un film de science-fiction pas du tout dans l'esprit de Dune ou en fait de Star Wars, même si le personnage est aussi un petit peu un paysan, tu vois, un peu comme Luke. Voilà, tu vois, c'est un peu élevé, il est avec sa grand-mère et tout, avec son fils, c'est pareil, enfin, il y a une espèce d'histoire un peu bizarre. Mais je trouve que la dernière partie du film, moi, ça m'a sidéré parce que je trouve qu'il y a des plans de science-fiction, d'effets spéciaux avec tous ces vaisseaux, avec le vaisseau cathédrale, avec le vaisseau château de Versailles, là, il est incroyable, tu sais pas où il se trouve, où il est, où ils sont, les gars, ils passent dans des espèces de grottes. Et moi, je trouve que par exemple, les plans où tu vois le vaisseau cathédrale immense, et ils sortent de là, ils sont... c'est assez dingue. Enfin, en fait, même j'ai trouvé que les plans du ciel, vers la fin, t'as toute une scène où il y a une espèce de bourrasque, alors qui n'est pas hyper bien faite, et la voiture, t'as l'impression qu'ils la jettent d'une grue et que ça tombe un peu comme ça. Mais tous les plans... Et je trouve qu'on revient plus à une SF qui fait un peu rêver, tu sais, une SF un peu à la fois enfantine. Lui citait Tarkovsky, Kubrick, et je trouve qu'il y a plus, il y a plus ce côté, tu sais, presque Lovecraftien, où tu filmes le ciel, et c'est inquiétant, il y a quelque chose d'inquiétant dans le film. Et en fait, à côté de ça, vraiment, quand je regardais le film, je me suis dit, en fait, on dirait, tu sais, une finale de Coupe du Monde de football, donc le plus gros événement planétaire, avec, je sais pas, 90 caméras, 100 000 personnes dans le stade, 80, je sais pas, enfin... des caméras partout, des spectateurs, des journalistes. Et en fait, les mecs qui jouent sur le terrain, c'est des mecs du village ou des mecs, je sais pas, un unijambiste, un nain, ou tu vois, des mecs qui sortent de la cour des miracles. Et c'est un peu ça, parce que le film, il est extrêmement bien cadré. Moi, je trouve que c'est un des films les mieux cadrés que j'ai vu ces derniers temps. Il est extrêmement bien monté. Il y a des trucs, tu vois, bah, des trucs pour moi de grand cinéma. Et en même temps, évidemment, ça joue. T'es à un moment, quand ils les interrogent, là, quand ils sont sur leurs chevaux, et que t'as l'impression que les mecs, ils jouent en décalage. C'est extraordinaire.
Oh putain, cette scène, elle est incroyable, quoi. Elle est à la fois, mais c'est, bon, j'en reviendrai après dans mon avis, mais elle est presque pénible, quoi. Le niveau de jeu, il est incroyablement bas. C'est un niveau où tu te dis, mais même des gens en quatrième qui font du théâtre amateur font mieux que ça, les gars, c'est pas possible. Comment vous avez pu enregistrer cette scène, quoi?
Je pense que c'est ce qu'ils leur demandent. Je pense qu'ils leur demandent pas de jouer comme des acteurs professionnels. Et tu vois, et par exemple, il y a une scène que moi je trouvais exceptionnelle. En fait, Camille Cotin, elle joue la mère, un peu la mère du village. Et en fait, elle rencontre une vieille dame et elle lui dit, ouais, genre, en gros, qu'est-ce que vous faites là? Elle fait, oh, bah, on fait aller. Et elle dit, ouais, qu'est-ce que vous avez acheté? Des fruits. Et en fait, la meuf, elle continue. En fait, elle entend pas ce que dit Camille Cotin. Camille Cotin, elle dit, ah, et elle a dit, des pâtes. Et à un moment, elle, tu sais, ça continue, elle fait, de la viande.
Ça dure 5 minutes en plus, cette scène.
Et en fait, moi j'ai eu le même rapport au film, c'est-à-dire parfois je me marrais presque après coup. J'entendais des gens dans la salle aussi qui rigolaient, tu sais, un peu nerveusement. Il y a des gens qui sont partis aussi, mais t'as des gens qui se marraient et un peu, tu vois, parce que et tu parlais de striptease. Alors après, c'est toujours le truc de savoir si. Est-ce qu'il se fout de la gueule des gens avec qui il tourne? Je pense pas, mais je pense que parfois sur les spectateurs, ça crée un peu ça. C'est-à-dire que bah, quand tu vois la grand-mère, elle est quand même. Tu vois le bébé, il y a plein de trucs. Enfin, je trouvais ça tellement dingue que j'étais mort de rire. Et c'est vrai, un peu comme dans un striptease où t'es là, où tu regardes ça un peu. Parce que voilà, Dumont, c'est plutôt un cinéaste, je sais pas à qui il s'adresse, mais c'est pas Danny Boone, quoi. C'est pas Bienvenue chez les Ch'tis, quoi.
Mais je crois que quand il avait tourné les deux séries dans le Nord, les gens au début, ils étaient hyper contents. Ils étaient assez fiers qu'une série policière était tournée là-bas, voire aussi un peu SF. Puis quand ils ont vu le résultat, je crois qu'ils étaient un petit peu vexés d'être pris un peu pour des demeurés, on va dire, comme des fois on peut voir dans la série ou dans le film. Enfin, peut-être pas des demeurés, mais on va dire que ça a quand même un petit peu à côté, voilà, quoi, un peu limite. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été vexés quand même.
C'est marrant parce que moi, je le vois pas du tout comme ça, justement, quand Camille Cotin parle avec la vieille et qu'elle dit « Ah, mais ils sont quand même touchants, ces humains. » Ah, bah, en fait, je trouve que ça a réussi à bien donner ce sentiment où, oui, ça peut te faire marrer parce que la nana, elle dit rien, il n'y a pas de conversation dans cette conversation, justement. J'ai acheté des pâtes, des œufs, machin. C'est « Ah, il faut bien aller. » Tu vois, c'est vraiment un truc où tu te dis « Elle parle comme une vieille inintéressante. » Mais au final, tu es quand même un peu touché par cette nana, par cette vieille qui, tu vois, fait son petit quotidien, etc. Et je trouve que c'est assez bien rendu. Donc, on est à la fois dans une moquerie, mais c'est une moquerie un peu gentille, comme quand ta mère elle sait pas allumer l'internet, tu vois, qu'elle vient te demander et que tu vas l'aider et que t'es là genre ah maman t'es vraiment nulle, tu sais pas utiliser un ordinateur, mais en même temps c'est mignon ta maman qui vient te demander de l'aide et t'es content de l'avoir aidée, tu vois. Il y a un peu ce côté là
juste pour rebondir, parce que c'est une scène un peu similaire, je crois que ma scène préférée du film c'est justement quand elle est aussi au marché Camille Cotin avec l'autre personne. Et il parle d'un plan galactique, mais enfin, voilà, à grande échelle, de stratégie de guerre, on va dire d'avenir de l'humanité. Et puis elle se fait interrompre par une petite vieille du village pour après parler de discussion que son compteur d'eau est tombé ou je sais plus quoi. Le décalage est tellement énorme. Je crois que c'était ma scène préférée du film, celle qui m'a fait le plus marrer. C'est tellement abusé.
Mais on va te laisser finir, Julien.
Du coup, étonnamment, moi, c'est un film que j'ai bien aimé et qui m'a jamais ennuyé. C'est-à-dire que le film aurait duré une heure de plus, j'aurais été encore là tellement je trouvais ça décalé. Je me suis beaucoup moins ennuyé, par exemple, que dans Dune. Hein, et je redoute beaucoup plus d'aller voir Dune. Et il y a notamment une dune de sable, hein, puisqu'à un moment, ils arrivent dans une plage. Il y a un plan de dune qui est quand même plus impressionnant que de voir Zendaya qui fait une pub de parfum. Donc, moi, je dis, voilà, allez le voir. Hein, plutôt que d'aller voir Dune partie 2 avec un casting, allez voir l'Empire. Et en plus, voilà, moi, le truc qui m'a plu, c'est quand même que ça commence par un plan fesse à la Kechiche. Premier plan du truc, voilà, t'as une fille.
Bah, une dune et des fesses.
Et un plan fesse.
Les deux.
Ah, donc voilà, l'hommage à Kechiche était là, moi j'étais complètement conquis. On parlera un peu de la gratuité un peu de certaines scènes tout à l'heure si vous voulez, quand tu auras donné ton avis. Et voilà, moi je voulais dire quand même, Julien Magnier dit Rudy, exceptionnel acteur, un physique qui ne prédisposait pas à être acteur, et en même temps c'est la révélation du film. Je veux dire, il va marcher sur le cinéma français, et même le cinéma...
DiCaprio, c'est fini, quoi.
Il est exceptionnel, je pense qu'il a un regard où il peut regarder deux caméras en même temps, c'est ouf. Quand il s'entraîne au sable laser, moi j'ai trouvé ça dingue, la scène où il est avec le sable laser, avec sa mère,
c'est génial, il n'y arrive pas.
Ah, c'est putain. Exceptionnel.
Et niveau sonore, niveau son, monde original, ça donne quoi?
Tout le travail de cinéma, moi je, à part vraiment, bah, les acteurs c'est un peu particulier mais c'est voulu, mais tout le travail de cinéma, et quand je disais tout à l'heure que c'était un film qui était extrêmement bien cadré, extrêmement bien monté, c'est la vérité, enfin, tous les effets comiques il les obtient par son cinéma, il les obtient pas par les acteurs en fait, et voilà, tout le crédit, moi je trouve que Bruno Dumont c'est un très bon cinéaste, il y a des plans de sorte de plans de grue, alors je sais pas si c'est des plans de grue ou des plans de drone qui sont, parce que voilà, il filme quand même l'endroit où il s'est filmé, c'est hyper important, et je te dis, à la fin, il y a des plans de l'espace avec tous les vaisseaux, voilà, même si le design est un peu chelou, qui sont, moi j'ai trouvé, et je redis ça, moi je l'ai trouvé sidérant, et ça fait longtemps que j'avais pas vu un film de SF de ce style-là, en fait.
Après, coup, la musique.
Et du coup, la musique.
Originale.
La musique, bah, la... Ah ouais, moi j'ai... ça m'a pas trop marqué.
Est-ce qu'elle est prégnante ou pas du tout?
Si, bah, y a...
c'est un film de SF quand même.
Bah, bah, moi je trouve que la fin, il y a des... y a une musique très orchestrale. Un peu, t'as un peu l'impression d'être, tu vois, un peu dans 2001. Alors j'ai pas vu qui avait fait la bande originale. Puis je te dis, il y a quelques parties un peu jazzy sur les personnages un peu plus décalés. Et voilà que.
Mais c'est vrai que globalement, l'économie des moyens, enfin le dispositif filmique autour des acteurs, voilà, qu'ils soient pro ou. En fait, t'es vraiment sur un film où il y a tout est très bonne qualité autour, en fait. Tout est très bien fait. Et tu peux pas. La musique, elle est. Ouais, tu vois, moi, c'est pareil. Je prends la scène de combat à la fin dans l'espace, etc. Tu te dis, ouais, c'est quand même. Il y a un rythme, c'est impressionnant. La musique est là, ça t'accompagne. Et justement, en plus, à ce moment-là, il y a un choix de mise en scène qui est que, en fait, t'entends plus les sons. T'es dans l'espace et t'entends plus que la musique qui entoure la bataille spatiale, etc. Et elle est hyper prégnante. Enfin, c'est vraiment une bonne scène de bataille spatiale, pour le coup. Donc, ouais, c'est plutôt.
À vous entendre, pour moi, est-ce qu'on peut le ranger à côté du Rain Animal en termes de proposition niveau design et tout ça.
Ah, attention, parce que j'ai pas donné mon avis. Mais
non, mais par rapport à la prod. Juste la prod, pas le film.
En termes de prod, ouais, franchement, c'est une très bonne prod. Franchement, c'est une très bonne prod. Il n'y a rien à dire. Il y a des moyens, ou en tout cas, ils sont bien exploités. S'il n'y en a pas beaucoup, je sais pas, mais je pense qu'il y a des moyens dans ce film, quoi. Parce que honnêtement, même les VFX, les effets spéciaux sur les vaisseaux spatiaux, etc., franchement, c'est bluffant. Julien, là-dessus, je suis complètement d'accord. Et Dim aussi avec les histoires de cathédrale. Que ça soit le design, et pas que le design, la réalisation même après dans le film. Franchement, à la fin, voilà, cette espèce de tempête, de trou noir, de machin, j'en dirais pas plus, mais c'est vraiment pas mal fait, quoi. Enfin, moi, j'étais assez surpris.
Bah, c'est pas mal, on pouvait pas s'attendre de ça, vu son cinéma d'avant, en fait.
Bah, c'est ça, puis surtout, bah, tu peux te dire, le film tourné dans le nord de la France, avec des acteurs amateurs, peut-être que ça va être cheap, mais en fait, c'est pas cheap du tout, quoi. C'est ça qui est assez, assez étonnant. Mais globalement, là-dessus, enfin, je reviens, je donne sur mon avis, du coup, j'enchaîne, mais je suis assez d'accord avec les deux compères, et notamment. En fait, sur ce décalage qui est quand même super, et moi, c'est pour ça que j'ai dit détestablement adorable, ou adorablement détestable, hein, si vous voulez, c'est qu'il y a un espèce de décalage, mais qui est à la base de tout, et qui est la grosse force du film. Tu vois, c'est, voilà, comme tu disais, Julien, c'est un peu Star Wars, mais cette fois-ci, c'est comme si Luke, c'était un beauf du Schnorr, quoi. Sauf que, tu vois, l'élu, c'était pas un beau gosse qui était sur une planète avec deux soleils. C'est juste un gros beauf dans le nord, l'élément le plus important de l'histoire, à savoir ce bébé qui va représenter le futur de l'apocalypse, il est gardé par sa mémère, tu vois. Et il est où la mémère, tu vois, bah, elle garde le machin, tu vois. En fait, il y a un espèce de décalage comme ça qui est complètement ubuesque, complètement étonnant tout le temps, qui fait que effectivement le film il est déroutant, et moi je dis détestablement adorable parce que au début j'étais parti pour le côté détestable, quoi. C'est-à-dire je me suis dit mais c'est quoi ce film? Alors avant, au début, en fait il se passe bien 20 minutes je pense sans qu'on comprenne ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on il y a pas d'effets spéciaux, on sait pas qu'il y a des méchants, des zéros, des 1, des bidules, on sait pas qu'il y a un truc galactique, on est juste dans le Schnorr et on voit des scènes un peu du quotidien. Je me suis dit c'est quoi l'intérêt de ce film avant que tout d'un coup le mec se mette à parler avec une voix d'empereur, quoi. Donc une voix trafiquée. Et au début je me dis putain je me faisais chier, je trouvais ça long, etc. Puis même une fois qu'il y a ça, je me dis mais qu'est-ce qui se passe là, pourquoi on nous sort tout d'un coup un truc galactique? J'avais rien vu sur le film, hein. Et je trouvais ça lent. C'est quand même un film qui est lent, hein. Je me suis un peu fait chier, moi. Comme Julien et un peu plus que Dim, parce que Dim toi t'as été un peu plus déçu, mais rapidement finalement ce côté un peu de décalage des personnages qui était complètement dingue. Et surtout, les mauvais acteurs, entre guillemets, hein, les acteurs vrais, franchement, ça m'a fait hyper rire. Mais encore une fois, un rire qui n'était pas du tout méchant, quoi, qui était vraiment un rire de type, ils sont trop cool, en fait. J'ai vraiment envie d'être avec eux, ils me font marrer, les gars, ils ont l'air cool, tu vois. Et le mec qui joue avec son sabre laser et qui a l'air d'un gros blaireau, tu vois, je me disais, mais je serais à côté de lui, je me marrais, je me foutrais de sa gueule, mais en même temps, ça serait pas méchant, tu vois, ça serait en mode pote, quoi. Et je le trouve trop marrant de faire ça, le gars, il y va à fond, il est tout content de faire des coupages de tête, il parle en anglais hyper mal, yes, vas-y, on va les niquer, tu vois. Il s'allume comme un fou, et je trouve ça hyper touchant, en fait. Et quelque part, ouais, moi j'étais plus touché par les acteurs amateurs et tout ce qu'ils pouvaient produire, presque par les acteurs pro, où tu sens quand même une petite différence de niveau, hein, soyons clairs. Je trouve ça très bien qu'ils s'amusent Lucchini, je trouve ça très bien qu'ils s'amusent les autres là, etc. Mais moi, tu vois, j'attendais qu'un truc, c'était le retour, voilà, justement, des acteurs non professionnels de la guilde à cheval, là où ils jouaient tous super mal. Moi, je voulais voir ces scènes-là parce qu'il y avait un truc complètement fascinant, justement, d'un film qui réussit à être réussi sur la forme, qui propose une histoire, bon voilà, manichéenne certes, mais qui propose une histoire qui tient le truc, et qui en même temps te met face à des acteurs qui savent pas jouer, mais qui restent pas risibles, plus qui essayent un truc et qui sont touchants, quoi, qui sont vraiment touchants. Et il y a quelque chose de fascinant à se dire, tiens, on est en train de parler d'une guerre galactique énorme, et puis effectivement, bah, en fait, le principal ennemi de la guerre galactique, bah, il est en train de se faire garder par mes mères, avec un père qui dit qu'est-ce que tu fous là, toi, et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi. Et vraiment, c'est ça pendant tout le film. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de regarder. Donc, il y avait vraiment un côté détestable parce que t'es complètement perturbé par le film. Et honnêtement, je peux comprendre que t'en aies la moitié de la salle qui serait barrée. Moi, ça m'aurait pas étonné. Plein de gens qui mettent 0 sur 20 ou des trucs comme ça, ça m'étonne pas une seconde parce que le film, il est tellement bizarre et c'est tellement étrange de se confronter à des acteurs comme ça, aussi amateurs, à une histoire aussi chelou et à des gens qui, parfois, t'as l'impression qu'ils sont complètement à côté de la plaque, que tu peux les détester. Moi, perso, il y a ce côté détestable, mais en même temps, justement, hyper adorable, mais dans le sens à adorer, quoi. Enfin, qu'on peut vraiment s'attacher à eux très rapidement, et on peut rire avec eux, rire de eux, au choix, hein. Franchement, vous faites ce que vous voulez, mais au moins, bah, tu ris et tu passes un moment devant un film qui est assez original. Je sais pas si j'aurais envie de le revoir tout de suite, mais il y a vraiment un côté très 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 différent comme type de proposition qui m'a vraiment super étonné. Moi, j'ai découvert du moins avec ça, je suis hyper curieux.
Ce que tu disais me fait réagir, c'est que en fait, je le disais tout à l'heure, mais c'est pas du tout un film parodique, en fait. C'est pas, parce qu'il n'y a pas du tout de second degré dans le film, c'est un film qui est full premier degré. Alors après, le fait qu'il entrechoque des univers différents, ça fait que ça crée un décalage, mais c'est full premier degré, c'est-à-dire que l'histoire SF, je pense que Dumont, il s'en fout un peu de tous ces de Belzébuth, de la reine, des 1, des 0, mais il s'en moque pas, en fait. C'est pas un film qui se moque, en fait, de la science-fiction. C'est pas un film, en fait, c'est pas comme, tu vois, ou c'est pas un film qui essaye de faire du genre. Mais c'est un film qui fait du Bruno Dumont, mais il intègre la SF dans son univers. Donc il reste premier degré. Ça ne veut pas dire que le film il n'est pas décalé ou qu'il ne crée pas comme ça un décalage par les univers qui l'entrechoquent, mais ce n'est pas du tout de la parodie, quoi. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est pas, je l'entendais parfois, c'est pas le film de Mel Brooks, La Folle des Histoires d'Espace. Ce n'est pas du tout cet esprit-là, en fait.
Ah non, tu vas pas pour rire. En fait, tu rigoles pas en mode genre il y a blagues, une blague. Il y a pas de blague, en fait. Il y a zéro nerveux, blague dans le film.
Il est en décalage, un peu comme le film.
C'est un vrai amateur du genre, alors. Si je peux comprendre. Amateur du genre, de la SF.
Bah, on pourrait le penser, ouais, quand même, parce qu'il y met des moyens. Je pense que c'est un film qui a pris du temps à faire. Je pense que, tu vois, rien qu'en termes de design, de façon dont c'est pensé, la façon dont c'est monté, notamment la bataille galactique à la fin, etc., etc. Puis il y a des hommages, tu vois, l'histoire des sabres laser, c'est un hommage clair et net, hein. Je pense qu'on peut pas faire plus. Donc ouais, je pense que c'est un amateur du genre. Mais un amateur qui voit ça avec sa propre vision, en mode genre, bah, ça ferait quoi si des gens qui étaient un peu des gens lambda essayaient de s'entraîner à une méthode spécifique avec un sabre laser pour tuer un ennemi, où il faut faire des gestes précis. Bah, ils y arrivent pas forcément très bien, ils s'y reprennent, ils s'engueulent un peu, ils sont un peu nuls, c'est un peu la loose, quoi. Donc ils montrent ça et ça fait un truc un peu bizarre avec la grand-mère qui sort au moment où ils sont en train de s'entraîner au sabre laser, et c'est hyper drôle, quoi. Mais c'est pas volontairement drôle, c'est juste que c'est comme dans la vraie vie.
Vous entendre, c'est un grand film, hein. Enfin, de mon point de vue extérieur, vu la façon dont vous en parlez, c'est quand même un film à voir et à pas rater.
Il y a Julien et Dim qui vont
avant Dim,
qui vont
non, c'est toi.
Il se prend tout seul.
On l'a perdu.
Non, non, on vient. J'attends d'avoir tous vos avis pour la fameuse polémique autour par Adelena et tout. Voilà.
Ah oui, oui. Ouais, alors parlons plutôt de laissant à Julien et Jim, si vous voulez.
Je voulais juste préciser sur la FF. La SF, on en parlait tout à l'heure. C'est, en fait, lui, il cite donc Soleil Vert de Tarkovsky et il cite le premier Planète des Singes qui, en fait, l'a un peu médusé. Et il parle de Star Wars. En fait, il avait vu Star Wars quand il était, je crois, aux États-Unis. Et en fait, on l'avait envoyé le voir et en fait, il comprenait rien parce qu'il parlait très mal anglais. Donc, il avait vu Star Wars sans sous-titres. Mais en fait, il avait adoré en fait le côté opératique. Et lui, il cite les 6 premiers Star Wars. Alors après, il dit ça, c'est parti en vrille. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui méprise le genre. Et comme je disais tout à l'heure, il est pas là pour faire de la parodie. Il revient pour moi à l'essence de la SF, quelque chose de, tu vois, d'imposant, de quelque chose face au cosmos. En fait, il y a un truc, on disait tout à l'heure, un nanar cosmique, mais le cosmos est important. Il filme le ciel, il filme, tu vois, une espèce d'immensité qui dépasse l'humain. Après, l'histoire, je pense que les personnages, ils s'en foutent un peu, mais voilà, il est dans une SF. Moi, honnêtement, alors ça va être bizarre, mais je trouve que parfois il y avait des trucs qui m'ont rappelé Nope. Alors, j'aime pas du tout Nope, mais il y a ce côté en fait où tu fais de la SF, où tu filmes des trucs, tu vois, un peu où tu mets pas des grands moyens. Par exemple, Nope, il y avait des trucs où finalement, il faisait pas un truc à la Star Wars, tu vois, où c'est pas The Creator, où tu essaies de faire vraiment du design de SF. C'était plus des éléments un peu bizarres, tu vois, une soucoupe un peu brinque-ballante, où tu vois, où là il filme des vaisseaux un peu particuliers. C'est une autre conception de la SF, peut-être moins spectaculaire, mais plus où tu regardes en fait ce qui se passe, où tu t'inquiètes et t'interroges sur ce que tu vois au-delà du ciel. C'est pour ça que je citais Lovecraft, qui est pour moi, qui fait une forme de SF un peu plus inquiétante, et ce que fait aussi Jordan Peele, même s'il le rate.
Ah si, j'ai retrouvé ma question, c'était, vous parliez de chorégraphie dans l'espace, mais à vous entendre, j'ai l'impression que c'est un truc de malade. C'est bien que ça, les chorégraphies, ou c'est quand même
c'est
les chorégraphies dans l'espace pour un film français ça donne envie, là, quoi.
Il n'y a pas trop de chorégraphie, c'est plutôt des plans assez fixes.
C'est pas une chorégraphie. Ouais, c'est plus une bataille de fin. Allez, bah, elle est pas
spectaculaire.
Elle souffle. Hein. Non, t'es pas non plus à te dire, ah mon Dieu, j'ai jamais vu une bataille de fin comme ça. Non, si tu veux voir une vraie bataille spatiale, va effectivement voir des Star Wars, des Marvel, j'en sais rien, des trucs comme ça. Là, il y en a quand même une, en fait. C'est juste ça. C'est qu'il a pas éludé le fait de se confronter à l'exercice de la SF sans s'en moquer, en faisant une bataille spatiale qui a une fin, qui a une résolution, avec voilà, des événements, des héros, il se passe des trucs. Il a sa propre vision de comment ça se déroule une bataille spatiale. Tu vois, par exemple, il coupe la musique, il coupe les sons, il met de la musique à la place. Enfin voilà, il y a vraiment une mise en scène qui est voulue autour de la bataille spatiale. De là à dire qu'il y a une vraie chorégraphie et qu'il y a des milliards d'euros qui ont été dépensés dans cette bataille spatiale, non. Mais il y a quand même une approche de la bataille spatiale parce que, comme Julien disait, il se moque pas de ça, quoi. Il essaye d'en faire une, mais dans le cadre de ce film qui est complètement décalé, parce qu'encore une fois, bah, c'est des super-héros, enfin c'est des héros qui réfléchissent au sort de l'univers, mais ces héros, bah, ils viennent d'un coin paumé du Nord. Et tu vois, le héros, le grand méchant chevalier noir du film, qui est le père du fils qui va devenir la bête, etc., etc., le mec est pêcheur. Le mec est pêcheur, donc tu le vois au début du film, il est sur son bateau en train de ramasser des putains de moules. Et il ramène son panier de moules à la mémère, elle l'engueule parce qu'il n'y en a qu'un. Et t'es là, et à l'après, tu te dis, mais pourquoi c'est un dieu de l'univers, lui, et qui va tout défoncer, et qui peut limite dégommer la Terre en un seul coup? Et le gars, bah non, c'est un pauvre pêcheur de moules qui attend à se faire chier sur son bateau tout seul comme un gros con au début du film, quoi. Donc il y a un côté absolument fascinant, je trouve, de ça.
Vous avez parlé aussi de décapitation, donc ça veut dire qu'il y a un peu de violence dans le film?
C'est léger, hein. C'est très léger. Très léger.
D'accord. Il y a ça et les sabres laser aussi.
Ah, les sabres laser. Aussi.
Ouais.
Il y a donc des chorégraphies, des sabres laser.
Oui, c'est léger aussi, il n'y a pas des...
Ok.
C'est plus que léger
dans
aussi,
le jardin,
la chorégraphie. C'est plus une chorégraphie ratée.
Allez, vas-y, Dim, l'expert de Star Wars.
Je voulais juste vous dire, voilà, ce que quand je vous entendais parler du film, bah, je ressentais un peu ce que j'avais en tête quand j'avais découvert justement les deux séries précédentes. Et je peux que vous les conseiller, hein, si vous avez aimé le film, je peux que vous conseiller les séries, parce que bah, moi, justement, c'est peut-être pour ça que j'étais déçu par le film, parce que j'ai trouvé que c'était un peu une version light. Moins déluré, moins décalé que les deux séries. Alors peut-être aussi parce que maintenant je me suis habitué à son univers et ça me surprend moins. C'est peut-être ça aussi, je sais pas, hein, j'ai du mal à évaluer. Mais je trouve que les deux séries sont beaucoup plus loufoques, beaucoup plus décalées. Et là, il y a que des acteurs amateurs pour le coup. Hein. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'acteurs pros. Et je pense que ça pourrait que vous plaire. Et, bon, c'est moins science-fiction, c'est plus thriller, même s'il y a aussi du fantastique. Mais allez-y, foncez. Hein. Je crois que c'est disponible encore sur Arte, hein, il me semble.
Je suis pas sûr, mais
à vérifier, enfin sur l'appli d'Arte.
Mais moi, c'est intéressant parce que moi, je sais pas si c'est un film que je conseillerais en fait. Tu vois, je n'ai pas envie de dire. Moi, j'ai envie de dire si un jour vous tombez dessus et que vous avez l'occasion de le voir,
spécial, hein.
Regardez-le. Mais peut-être que vous allez détester le film, c'est que vous n'allez pas passer le truc de les gens jouent mal. Voilà, tu vois, c'est ça.
Moi, tous mes amis qui ont vu le film ont détesté. On dit c'est une merde absolue, c'est pas drôle. Il y en a certains qui m'ont dit on avait qu'une envie, c'était de se casser avant la fin. Enfin, je veux dire, on peut complètement. Et c'est pour ça que je dis détestablement adorable, c'est qu'on peut vraiment détester ce film si on rentre pas dans le délire de se dire c'est un film de science-fiction du nord de la France, quoi. Enfin, il faut pas oublier que c'est aussi ça, c'est autant l'un que l'autre, en fait. Donc, si t'aimes pas ce côté nord de la France un peu striptease, tu vas détester le film et ça te fera pas marrer. Et ça, il faut bien l'entendre et bien être prêt. Donc, effectivement, maintenant que les séances de cinéma coûtent 17,20€, attention.
Ah, mais c'est bientôt la fête du cinéma. Mais à vous entendre, c'est marrant, du point de vue extérieur, tous les trois, c'est à peu près le même avis. Allez-y quand même, c'est une curiosité et c'est assez hors norme.
C'est une putain de curiosité, mec.
Il y a pas trop de négativité dans
Mais
avis, donc,
bah, en fait, ouais, on comprend que des gens disent c'est à chier, qu'on mette 0 sur 20. Et moi, ouais. Je comprends tout à fait ça, en fait.
Ah, mais complètement aussi. Ouais. Et tu vois, je pense que tous les trois aussi, et toi aussi, Yao, si tu l'avais vu, mais on est curieux, donc on aime bien qu'on nous propose des trucs un peu différents, etc. Tu vois, nous, c'est un peu notre kiff, et c'est pour ça qu'on fait le podcast et tout ça. Mais effectivement, si t'aimes pas trop qu'on te propose des trucs différents, tu peux te dire que ce film est une grosse merde, et que c'est pas pour toi, et que du coup, ça te ferait chier de l'avoir payé. Donc, c'est pour ça que moi non plus, je dirais pas, allez sortir vos thunes pour aller le voir, mais effectivement, si vous tombez dessus, etc., putain de curiosité, c'est un film, c'est le premier truc que j'ai dit en sortant sur le groupe, c'est j'ai dit mais what the fuck quoi, qu'est-ce que je viens de regarder, putain, c'est trop chelou.
Et je pense aussi, et c'est peut-être là la transition qu'on va faire, c'est que je pense que, tu vois, nous trois qui l'avons vu, on est des gens des années 90, donc on est des gens assez cyniques, et en fait, moi j'ai vu beaucoup de gens qui n'aimaient pas Bruno Dumont ou le film parce que, ce que je disais tout à l'heure, ils pensent qu'ils se foutent de la gueule des gens qui filment. Et ça, je reconnais que ça peut être un problème, tu vois. Moi, quand je vois ça, ça me fait marrer. Et tu disais tout à l'heure, même de se foutre de leur gueule, c'est pas méchant. Mais tu vois, tu vois un film, l'espace d'une heure et demie, tu vois, moi, le Rudy, je l'adore. Pour moi, c'est mascotte de 2024. Génie. Mais en même temps, quelqu'un qui m'écoute pourrait dire, ouais, il se fout de sa gueule parce que le mec, je sais pas, il a une tronche bizarre, il a un jeu de merde, voilà. Et il y a l'autre élément, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui ce qui s'est passé avec Adèle Haenel. On va en parler juste après, mais en fait, pour beaucoup, Bruno Dumont, il est misogyne, voire raciste, et la misogynie dans le film, moi, je suis assez d'accord qu'il y a un truc très gratuit. c'est peut-être aussi une question d'âge, de génération. Tu vois, moi, voir une paire de fesses, une fille toute nue, des gens qui baissent pour baiser pour rien, ça me dérange pas, en fait, tu vois. Je me dis pas, tiens, ça va faire du tort aux femmes, ça va faire du tort aux hommes. Et peut-être que des gens, aujourd'hui, pensent différemment. Et je reconnais que les scènes de sexe dans le film, elles sont hyper gratuites. Le racisme, on pourra en parler, moi, je le vois pas trop dans le film. J'ai pas perçu que... Alors, je sais pas ce qu'elle entendait par racisme. Est-ce que c'est sur les gens du Nord?
Peut-être racisme anti...
Voilà,
anti
elle disait genre avec des blancs, ce qui est pas vrai, puisque maintenant, il y a Lina Koudry aussi qui est dedans. Mais c'est vrai que, voilà, il filme aussi une région de France. Mais le côté misogyne, je le comprends. Et je comprends que des gens disent que c'est problématique d'écrire en 2024 des personnages féminins comme ça. Moi, ça me dérange pas de commencer un film avec une meuf à poil qui bronze sein à l'air et après on voit son cul parce qu'elle lève sa jupe, mais ouais. Je reconnais qu'aujourd'hui c'est pas saut 2024, on va dire.
Oui, oui, et les personnages féminins, sans spoiler l'histoire, cette même meuf, 10 minutes après, est complètement soumise au chevalier noir, à l'acteur principal, et dans l'autre camp, la nana, l'héroïne, donc, qui est jouée par Anna Maria Bartolomei, elle est pareille, en fait, on va dire que c'est un personnage au début, puis rapidement, en fait, c'est plus que son histoire d'amour, de sexe avec Johnny. L'anti-héros qui va la définir et qui va complètement définir son personnage et ses actions. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il n'y a plus que le cul qui la définit, quoi. Donc
elle est constamment à poil, quand même. Bon. Enfin, tu vois, en mini-short...
Elle est pas mal à poil.
La Daddario française.
Mais déjà, dans les deux séries, il y avait des personnages féminins un peu fonction comme ça aussi. On va dire des filles plutôt jolies qui étaient un peu sexualisées à outrance, un peu femme-objet. J'ai l'impression que c'est un peu une de ses spécialités aussi.
Et c'est vrai qu'on peut se demander, quand on voit le physique assez avantageux des actrices qu'il a choisies, donc Anna Maria, Lina Koudry, etc., tu te dis, tu vois, même par rapport aux autres acteurs qui sont quand même beaucoup des gens normaux, entre guillemets, parce que c'est des acteurs, voilà, pas professionnels, etc., qui ont des tronches, quoi. Où tu te dis, mais moi, tu vois, elle faisait tâche, ouais, presque, en fait, Anna Maria Bartholomew et Lina Koudry, tu vois, quand tu les vois arriver dans le film, tu te dis, mais c'est quoi ces physiques parfaits, en fait, par rapport à tous les autres? Il y a un problème. Et là, tu sens qu'effectivement, il y a peut-être un questionnement à se faire sur est-ce qu'elles ont pas été complètement recrutées que pour le physique et pour en faire des rôles objets, des personnages objets, des femmes objets, si on extire le dossier. Donc on peut comprendre peut-être un peu l'analyse qu'on a fait Adèle Haenel sur ce côté, en tout cas misogyne, ça c'est sûr qu'il y a quelque chose à dire là-dessus.
Ouais, pour le côté raciste, en fait, je sais qu'Adèle Haenel, elle était attachée au projet il y a quand même assez longtemps, il me semble, même avant le Covid, vers 2019, donc... Il y a peut-être eu, on va dire, des changements dans le scénario. Elle a peut-être eu une version qui ressemble pas forcément au film qu'on a vu aujourd'hui. Donc, mais pour l'instant, c'est vrai que ce côté-là, autant que le côté sexiste, je comprends, mais le côté raciste, bof. Mais bon, comme je disais, on n'a peut-être pas vu les mêmes versions.
Bah, surtout que nous, on n'a pas senti... Enfin, voilà, nous, moi, perso, je trouve que les gens du Nord et les acteurs qu'on a vus, je les aime beaucoup plus après qu'avant. Tu vois, j'ai un vrai respect, là, honnêtement, en sortant du film. Moi, j'ai trouvé hyper attachant, les gens qu'on a vus, que ça soit la mémé, la vieille qui parle de ses courses, ou les acteurs qui sont dans le film et qu'on pourrait croire qu'ils se ridiculisent, là, entre guillemets, comme le Rudy ou le Johnny, ou etc. Bah, moi, je les trouve trop cool et j'ai envie de les revoir dans d'autres films, en vrai, tu vois. Enfin, ah oui, j'attends ça, quoi.
Heureusement, c'est moins bienveillant et dégoulinant que Bienvenue chez les Ch'tis, hein, parce que c'est juste pour...
Voilà, c'est juste une autre façon de bien... En fait, on les met juste en valeur d'une autre façon. Certes, ils jouent peut-être pas parfaitement, mais ils sont quand même là, ils font le taf. L'histoire t'y croit, t'es impliqué dans le truc, ils te font sourire. Alors parfois c'est par moquerie, mais parfois tu souris avec eux. Et franchement, bah moi je trouve que ça passe très bien pour juste avoir un bon rapport avec eux. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas eu du tout un rapport de moins bien les voir après avoir.
Mais tu vois, c'est ce que disait Dim avec Striptease. Il y a eu longtemps des procès autour de Striptease parce que les gens disaient est-ce qu'ils se foutent de leur gueule? Est-ce que poser simplement une caméra sans mettre de voix off, c'est se foutre de la gueule des gens ou c'est les laisser en fait et c'est laisser le jugement au spectateur, tu vois? Pour moi, c'est ce qui différenciait Striptease des émissions de TF1 où là, tu sentais une espèce de volonté un peu, j'allais dire de volonté de nuire, enfin de volonté de s'amuser de ces gens-là. Alors que si tu places juste une caméra et que tu laisses tes gens à leur libre arbitre, bah, pour moi, c'est pas dérangeant en fait, quoi. Et voilà, après, Adèle Haenel, moi, je peux comprendre le truc, mais après, tu peux aussi connaître un peu le cinéma de Bruno Dumont. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est les grands défenseurs de Bruno Dumont disent « Bah ouais, mais en fait, il veut ridiculiser le côté viriliste des héros de science-fiction avec son personnage de Johnny. » Bon, franchement, le personnage de Johnny, il est un peu gratuit, c'est-à-dire ce côté « Ouais, toi, t'es bonne, tu me fais bander. » Et il y a vraiment une phrase qui me fait beaucoup rire, et ça pourrait être la phrase, je pense que je sais pas s'il se fout de la gueule de tout ce qui se passe autour de... dont on parlait tout à l'heure de cancel culture, de Me Too, mais tu vois, c'est un moment, il dit... On baise et la vie continue, quoi. Tu vois, ça. Ouais. Je trouve ça très drôle, tu vois, ça me fait marrer. Mais je comprends que les gens, ça ne fasse pas marrer, quoi.
Ouais, pour revenir aux scènes de sexe, est-ce qu'il y a une certaine parité? Donc, on voit beaucoup de filles toutes nues, mais est-ce qu'on voit
non, pas du tout. Non, pas du tout, mec. Okay. Aucune parité.
On n'est pas en 2020, d'accord.
Tu vois un peu les fesses de l'acteur qui très joue bien, Johnny, je pense, quand tu le vois de haut, vu sur le bateau avec Lina Koudry. Mais c'est tout, quoi. Non, par contre, c'est sûr que l'autre, Anastasia... Anna Maria Bartholomew, elle, c'est sûr qu'elle est souvent.
Oui, parce que t'as une scène de sexe, t'as le cheval qui est à droite, eux qui sont en train de baiser, et après elle, seins nus, voilà, qui enlève son top.
Et les mecs, d'accord.
Non, les mecs, non. Après, Rudy, j'aurais bien voulu voir torse nu, belle bête. On le voit à torse nu.
Ah, voilà, on le voit à torse nu, même souvent.
C'est
même,
vrai,
je crois.
C'est vrai, souvent. Parce qu'ils vont. Ouais, c'est pas sexualisé. Les hommes sont pas du tout sexualisés. C'est plutôt eux qui se sexualisent. Ah oui, non, c'est pas. Mais dès le début, en fait, et même la façon dont ils sont habillés. Et quand tu te dis que Adèle Haenel devait jouer justement le rôle de Anna Maria, c'était ce rôle-là qu'elle devait jouer. Autant le rôle de Camille Cotin, parce qu'à la base, il y avait Virginie Fira qui devait jouer le rôle de Camille Cotin. Bon, tu te dis, c'est un rôle, voilà. Autant je vois pas trop Adèle Haenel jouer le rôle de la Daddario française.
Ah là, non, ça serait moins passé. On peut comprendre qu'elle n'ait pas eu envie de le faire. Effectivement, ça colle pas trop. De toute façon, maintenant, elle a arrêté le cinéma.
Mais même à l'époque où elle a accepté le film, je trouve ça. Je comprends. Moi, vraiment, c'est le truc. Le côté gratuit du sexe dedans me dérange pas. Mais je comprends tout à fait la critique parce que j'ai beau triturer le truc dans ma tête. Je vois aucune justification de la façon dont les hommes se comportent et dont les femmes sont rendues à. Ouais, sont soumises
en fait.
Ouais, c'est. Je sais plus, moi, alors, ce qui m'a fait marrer, c'est de lire un peu des théories, tu sais, un peu d'auteurs. En fait, je lisais dans Les Inrocks où il disait, oui, c'est le bien contre le mal, c'est ce qui se passe chez les gens, c'est, enfin, tu vois, chez les hommes, il y avait tout un discours que t'as pas l'impression d'avoir vu le même film, quoi. Moi, des fois, j'avais un peu l'impression de voir, les musclés qui tournent un film ou... Non, mais franchement.
Mais il y a un peu de ça, putain. Ah, mais c'est pas tellement faux, putain. C'est pas faux ce que tu viens de dire.
Les Charlots, quoi. Tu vois, un côté où on met une meuf à poil parce que c'est pas mal de mettre une meuf à poil. Parce que ça reste joli à la caméra, quoi, tu vois. Après, tu peux considérer que c'est esthétique et tout ça, mais aujourd'hui, en 2024, c'est, tu peux, je sais pas si même pas il se pose la question, alors il se dit, je vais le faire pour faire chier un peu les gens. Je sais pas si j'arrive pas à savoir, en fait. Ça, ou alors vraiment, il a un discours derrière.
Il cherche un peu l'excuse, tu sais, en disant, on est que, parce que à la base, en fait, les gentils et les méchants, entre guillemets, aliens, oui, habitent des corps humains. Et donc, il y a un peu ce côté de dire, ah, mais on a quand même des corps humains, donc autant s'en servir, autant faire quelque chose. Donc, il y a quand même un peu ce côté. Où on peut peut-être trouver une recherche en disant c'est pas complètement gratuit parce que quelque part ça pose la question de c'est quoi être humain. Et bah oui, c'est aussi baiser, hein, mine de rien. Et donc peut-être que c'est ça et tu vois, on peut essayer de le défendre comme ça. Mais bon, globalement, dans l'intrigue du film, ça sert pas à grand chose de ne voir que la nana à poil et le mec pas à poil. Que la nana d'un côté comme de l'autre qui sont soumises au même mec, le héros, etc., etc. Enfin, derrière, effectivement, la construction.
Mais oui, moi, tout à fait, excuse-moi, combattre la pudibonderie, je trouve ça pour le coup plutôt bien en fait. Après, voilà, est-ce que le personnage, vu, ouais, il arrive à exister indépendamment de ça ? Je suis pas toujours sûr. Le personnage féminin.
Au début, ouais, mais bon, voilà.
Ouais, cette scène, elle m'a fait penser un petit peu à un vieil Hollywood Night que j'avais vu dans ma jeunesse.
Lequel ?
Alors, Hollywood Night, hein, pour les plus jeunes, c'était des...
Quelle scène ?
Bah, la scène de baise avec le cheval.
Non, mais lequel film ? Avec Anna Nicole Smith, c'est lequel ?
Non, mais j'en sais rien, je me rappelle plus.
Il les connaît par cœur,
c'était un espèce de sous-terminateur avec des cyborgs. Un mec.
Oh, je l'ai vu!
Mais je me demande si on l'avait pas vu ensemble, Greg, avec un mec. Mais si, on l'a vu! Une grosse bombasse.
Ah, donc tu regardais avec Greg des Hollywood Night. Ok,
et
ça va.
Dans une ville dévastée et il fouille une maison et il retrouve un magazine érotique où voilà, il y a des scènes de
sexe. Qu'est-ce qu'ils font là?
Puis là, t'as la voix. Que font ces humains si on essayait de les imiter? Et là, je me suis dit, je crois que c'est la scène de sexe la plus gratuite que j'ai vue de toute ma vie.
C'était T-Force, je crois, le nom du
film.
Ah
oui, je crois que c'était T-Force.
Ouais. Ah ouais, quand même.
Ouais, on l'avait vu. Ouais. Alors, c'est bien marré, celui-là ouais, était bien nul. Ouais. Hein. On aimait bien ces conneries là, nous. Attention.
Mais d'ailleurs, tu parlais ça, moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté V, si vous vous rappelez de la série où c'était.
Ah oui, non. Oui, moi je suis un très grand fan.
Si, parce que finalement, tu sais pas si c'est des humains ou des extraterrestres et ils se cachent de la même manière. Là, c'est des masses noires qui sont quand ils tuent un moment, quand Rudy en tue un et qu'ils se désintègrent comme une merde, là, comme une telle masse noire. Ouais, ça m'a fait penser un petit peu à ça, à V.
Ce qui est marrant, ce qui est bizarre, c'est l'attitude des humains par rapport à ça, qui eux calculent rien. Hein. Ils calculent pas les zéros, les 1, machin, etc. Tu vois, enfin, il n'y a pas d'inquiétude du côté des humains à se dire, ah, il y a des aliens autour de nous, etc. Les humains, ils calent rien du tout de tout le film. C'est, ils passent complètement.
C'était déjà comme drôle. Ça dans la série Coin-Coin, où il y avait une histoire de SF avec une espèce de masse noire extraterrestre qui tombait du ciel et tout le monde s'en foutait, quoi. Enfin, ils vivaient toujours leur vie dans le village.
Ah bah c'est ça, quand les gays n'ont rien à foutre, tu vois, t'as une grosse guerre alien autour d'eux, personne se pose la question, c'est très étonnant ça aussi.
Mais c'est vrai que moi j'ai trouvé, par exemple, je parlais tout à l'heure de Kechiche, où on déconne toujours avec, tu sais, filmer des culs, mais je trouve dans Kechiche, la sexualité, par exemple on prend un film comme Mektoub, elle est beau, enfin tu la comprends beaucoup plus par rapport au personnage, par rapport à ce qu'il veut dire d'une espèce de joie de vivre, une espèce d'exultation des sens. Là, t'as l'impression, en plus, comme c'est Johnny, c'est tellement un gros beauf que, en fait, tu vois, tu te dis, bon mec, t'as envie de lui dire, calme-toi, quoi, tu vois, il est là, il est avec sa bite. Enfin, tu sais, à un moment donné, je me dis, tu peux pas le défendre, en fait. Alors que chez Kechiche, même si Kechiche, il fait des plans, tu vois, des plans très, très sous la ceinture, tu le comprends, en fait, dans le film. Et c'est justifié, en fait. Enfin, moi, je trouve que les femmes, elles ont toujours des grands... Non, mais elles ont toujours des grands rôles dans les Kechiche. Là, pas tellement, quand même. Tu vois, la personnage... Moi, j'aime bien le personnage de Anna Maria, voilà. Mais je trouve qu'elle s'en sort très bien. Et elle est... voilà, et le duo qu'elle forme avec Rudy, là, je trouve ça exceptionnel. Mais honnêtement, elle n'est pas très bien servie par le personnage, quand même.
Non, c'est sûr. Pauvre Dim, à chaque fois qu'on va voir un film français, il se retape un petit peu de Kechiche en référence, quoi. Il coupe
c'est
pas.
C'est pas grave, je m'y habitue à force.
Enfin bon, c'est un film, je sais pas non, si vous avez encore d'autres trucs à rajouter sur la critique. Yao, je sais pas si t'es encore là, si t'as des questions.
Non, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, en tout cas. Du point de vue extérieur, ouais. Ça vous donnait vraiment envie de le voir, en fait, c'est pour ça.
Ah bah là, à tes risques et périls, on a aussi prévu, ouais. À tes risques et périls. Quand tu dis, tu vois, quand Julien dit c'est un film des musclés, c'est assez vrai, quoi. À la fois pour les meufs à poil, enfin pour la meuf à poil principalement, et à la fois pour la qualité du film, enfin tu vois, la qualité de l'acting, ouais. On n'est pas loin d'un film des musclés. Donc il faut avoir quand même ça en tête quand on te dit ça donne envie parce qu'encore une fois, nous on est curieux
c'est,
et que ça
c'est
marche.
C'est la merguez partie le film. Dis-moi.
C'est complètement ça. Mais tu sais, il gueule, il y a, un extraterrestre aussi chez les musclés. Hein.
Avec
est
Gus,
un peu
Gus qui serait le enfin, Margat. Bon.
Gus, ouais, c'est ça. Putain, en fait, il a tout pompé sur les musclés. Voilà, ça va peut-être conclure un peu notre critique chronique retour sur ce film. Donc, voilà, bah, exceptionnel, what the fuck est-ce, étrange, sidérant, déroutant, détestablement adorable que nous avons vu avec l'Empire de Bruno Dumont. Voilà, encore une fois, allez vous faire un avis ou pas, on vous en voudra pas si vous y allez pas. Si vous l'avez vu et que vous voulez venir en parler sur notre Discord, ça sera avec le plus grand plaisir, parce que je pense que les gifs voilà, de Johnny et des autres Rudy vont tourner sur le Discord avec le plus grand plaisir de tous. Et puis bah, avant qu'on se quitte, on va faire un petit quiz, je crois, Julien, enfin en tout cas Yao et Dim vont faire un quiz. Moi je vais essayer de suivre vaguement le rythme, parce que le niveau avec Dim, on le connaît, il a les cartes.
Yao est motivé, hein, il me fait un petit peu peur quand même.
Non mais tout à l'heure t'étais le roi.
Il a voulu.
Je suis chaud.
Ah, il a encore bien défoncé tout le monde là.
Un délai d'une seconde à Dim, tu vois, pour qu'il puisse réagir qu'après.
Non, ouais, ça.
Dim, il a même pas.
C'est un nouvel.
T'as même pas fini les questions.
C'est un nouvel adversaire, c'est pas Jérémy, on connaît pas encore son nom.
Ah oui, parce que Jérémy.
Mais j'ai déjà joué contre.
Si Yao l'a déjà eu une fois. Il a déjà eu une fois.
Dim qui a donc.
J'avais tendu. Ça m'énerve.
Dim, c'est un peu. Il a deux victoires. C'est quand même le maître. C'est un peu le Margat de. Je sais pas quoi. Dire c'est la bête
le Johnny du podcast
hein, parce qu'il a gagné les deux premières manches. Voilà, donc juste pour rappeler hein, le grand quiz des animateurs d'Upcast, hein, donc troisième session. Donc je vous rappelle qu'il n'y a pas de proposition, hein, on est à la dure, on est à l'ancienne, hein, il n'y a pas de 50-50, il n'y a pas d'appel à un ami. Il y a six questions qui viennent d'halluciner notre partenaire historique. Voilà, dans une boîte de jeux que j'avais eu à Noël. Et donc voilà, je vais vous tout de suite. Alors il y a six catégories. La première catégorie, et il y a beaucoup de catégories d'hymnes, hein, parce qu'il y a les blockbusters, il y a les ça fait flipper, il y a les comédies lol. Et voilà, donc à chaque fois j'essaie de dire bon, là, faut pas trop que je prenne un truc pour d'hymnes, mais en même temps, c'est les questions hallucinées. Hein, il n'y a pas non plus.
Ouais, mais en même temps, je pense que le mec est tellement bon que tu ferais des questions kéchiches ou du monde.
Il y a halluciné qui coule dans les veines, tu vois.
Écoute, bah, on va commencer par la catégorie numéro 1, hein, un peu la catégorie phare, c'est « Ça fait flipper ». Donc, film d'horreur, film de peur, on va dire. Première question, écoutez bien. Pourquoi la mort s'acharne-t-elle sur les héros de Destination Finale ?
Pour le destin.
Parce qu'ils en ont réchappé à la mort.
Bah, c'est le destin, voilà.
Précisément, il faudrait plus...
Qu'est-ce qu'il te faut comme réponse ? Alors, ils ont échappé à un accident d'avion qui aurait dû les tuer et... Pour, puisqu'il faut rétablir le destin, la mort après les...
Tout à fait, ils devaient mourir en avion. Voilà. Donc, un point pour Greg. Et...
Oh putain, ça y est, enfin.
Un point.
Ça y est.
Ah la vache, ça y est.
Alors, attention. Il s'est réveillé. Alors, j'ai pas fait exprès, honnêtement, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Il y a une révélation qui a été faite par Yao. C'est-à-dire que Dim est fan de Philippe Lachaud. Voilà. Et j'ai une question, Philippe Lachaud.
Bien sûr.
Désolé,
ah merde, alors
je ne savais pas, j'ai préparé avant cette discussion. Voilà, c'était LOL and Love. Donc là, ça va être LOL avec Philippe Lachaud. Dans Babysitting de Philippe Lachaud et Nicolas Benamou, ils étaient deux pour accomplir ce méfait, comment les comparses s'enfuient-ils de la fête foraine ?
Comment ils sont ? Vas-y, dis-moi, réponds-moi que tu connais, c'est ton film culte.
Non,
ils ne prennent pas des cartes.
Si, des cartes, effectivement.
Ah,
parce que d'ailleurs, dedans, je crois qu'il y a une parodie
qui
de Mario Kart.
Ah, le mec de mauvaise foi, il connaît mieux Philippe Lachaud que tout le monde. Mais oui. La honte, Yao, tu peux
écoute,
plus te cacher.
Écoute, c'est ma culture ciné, je dois avoir des daubes et des bons films. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà.
Et là, tu vois, c'est enregistré, Yao, là, tu peux te souligner.
Ceci dit, j'avais nominé Babysitting.
C'est trop fort, Yao qui répond sur la chose.
Écoutez, Babysitting, j'avais trouvé ça intéressant et après j'ai vu le reste de sa filmo et j'ai lâché l'affaire.
T'as, eh bien, la prochaine question, elle est sur le pack des loups, Yao, il va cartonner quoi.
Non, la question, elle peut quand même réunir là, Dim et Yao. Hein. Tu vois, c'est la lutte du bien contre le mal, la lutte Belzébuth versus la reine. Et là, j'ai fait une question un peu Yao versus. Mais tu peux peut-être en avoir deux. Allez. Je regarde si c'est la bonne question. Tout à fait, c'est celle-là.
Oh putain,
qui fait équipe avec Jackie Chan dans la saga Rush Hour?
Chris Tucker.
Chris Tucker.
C'est Yao en premier.
Putain. Oh,
c'est Yao. C'est Yao. Voilà. Dim à 0 points pour l'instant. Yao 2.
Yao 2 points là. Voilà, j'avais dit c'est une question Dim ou Yao, je savais pas trop.
Putain, alors moi j'allais dire Chris Rock. J'étais bien.
Bon, alors voilà, je me suis dit, il faut quand même un peu relever un peu le niveau du cinéma, même si, bon, c'est pas non plus le plus grand film de l'histoire, mais on va quand même, voilà. Donc, c'est la question, préparez vos mouchoirs, donc des films qui font un peu pleurer quand même, des films qui, voilà, qui vous mettent l'émotion, un peu comme l'Empire. Dans quel film un fils cache-t-il à sa mère la chute du mur de Berlin?
Je l'ai vu.
Ah, putain, un film américain?
J'ai oublié le nom. Avec une affiche.
C'est avec Daniel Brühl. C'est. Ah putain, oui, oui. Je l'ai vu ce film.
Ah, Stalingrad? Non, c'est pas de Stalingrad.
Staline. Non, Remember Stalin. Non.
Comment il s'appelle ce film? Merde. Ah putain. Bah, c'est pas Staline, non, c'est pas Stalingrad.
Et malheureusement, le temps est écoulé. Hein. Désolé, mais c'était Goodbye.
Ah oui,
Lénine.
Lénine. Donc, ça fait plutôt le jeu de Yao hein, qui mène toujours 2-1.
Ah, c'est beau, Yao, c'est beau. Grâce à la show.
Quel film de la show qui va te faire gagner? Attends, là, c'est quoi? J'avais le choix. Pourquoi il y a ça? Non, attends, j'ai sauté une. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, elle est là. Non, elle est bon, c'est bon.
Ouh là là.
Les Petits Mignons. Alors, on pensait que c'était plutôt des trucs d'animation, mais pas du tout. Puisque là, on va parler autre. Ah. Après Philippe Yachaud, attention, on va parler de Kev Adams. Alors. C'est vrai.
J'ai eu une question Kev Adams la fois d'avant.
Bonne observation, hein, je le sais, mais j'ai un contrat avec Allociné, c'est-à-dire qu'on est en partenariat avec Allociné, qui sont en partenariat avec Kev Adams
aussi.
Avec Maison de Retraite numéro 2. Donc on ne peut pas non plus y échapper, il faut une question Kev Adams à chaque fois. Voilà, donc là c'est la question Kev Adams, on ne peut pas y échapper. Quel acteur partage l'affiche du film Fiston avec Kev Adams?
Ah, Franck Dubosc.
Voilà, il est là sur la Comédie Française. J'allais dire, j'ai pas pris Didier Bourdon, hein, s'il y a des questions de Didier Bourdon, je les exclus.
J'ai même pas entendu le film, c'était quoi?
Plus.
Ouais, Fiston.
Fiston.
Donc Yao, il pourra c'est plus être rejoint, Yao. 3-1 pour c'est. Yao, il va gagner le quiz, il pourra plus être rejoint.
Je vois même pas ce que c'est que ce film. Je vais aller voir sur Google en même temps.
Ah,
parce
comme
que
là, une merde, on est là.
Éthéré. Fiston.
La dernière question qui a un peu un lien avec tout ce dont on a parlé avant, c'est la question La Vie en Rose. Vous allez comprendre après, si je vous le dis maintenant, je vais pas trop vous aiguiller. Alors, qui incarne Dominique Strauss-Kahn dans le film Welcome to New York d'Abel Ferrara? Donc je voudrais l'acteur.
Depardieu.
Ouais, c'est bon. Il l'a là.
Sérieux, ouais. Depardieu. Ouais.
J'ai quand même un point.
Voilà,
je sauve l'honneur.
C'est Me Too. Hein,
je vois même pas ce film.
C'était Me Too de Depardieu. Alors, est-ce que c'était un rôle de composition pour lui? Je ne crois pas.
Ah bah là, ouais,
année.
Je pense qu'il a pas beaucoup improvisé.
Ils disent pas l'année. Hein. On pourrait chercher, mais ils disent pas l'année.
C'est un vieux film, ça? Tu l'as déjà
vu? Je crois pas que ça soit un vieux film parce que c'était après le.
À l'époque, ça avait fait un petit mini buzz, je me rappelle, on en parlait beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai su y répondre, mais je l'ai pas vu non plus.
Et donc c'est Dim.
Ça justifie pas Dim, hein. T'as le droit d'aimer Depardieu et toute sa filmographie. Hein.
Bah, il y a des films que j'aime bien de Depardieu, mais bon, je l'ai pas vu celui-là.
En tout cas, le fiston, ça a l'air bien, un hein, fiston, là. Je vois la jaquette du film. Franchement, Yao, tu peux être fier de toi d'avoir répondu là-dessus.
Et voilà, il a pas vu le film, mais il était venu pour ça. Il est venu, il a vu, il a vaincu. Et voilà,
il a eu ses points.
L'empereur du quiz.
Et franchement, bravo Yao. Ça, c'est bien parce que, tu sais, ça et remet un peu les cartes, hein. Il y a Dim qui a 2 points, il y a Yao qui a 1 point, il y a Jérémy qui avait gagné une fois, je crois. Bon, moi je.
Non, Jérémy, là, j'avais gagné.
Non, il était ex aequo avec toi et après il a perdu la dernière question.
Je commence.
Ah, c'était ça.
Je commence à trembler. Ouais. Tu vois, c'est.
Ah, 2-1. Alors, Yao peut revenir c'est... maintenant. Si tu fais que des trucs comédie française, c'est bon. Yao,
là, c'est le début du Rise and Fall. Je suis au sommet, puis là.
T'as touché le soleil trop vite.
Je vais arrêter le délai sur le micro de Dim parce que là, il en a encore à la 3e question, donc c'est peut-être un petit. petit peu plus dur pour lui. Non, 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 oui.
Je précise, il n'y
avait aucune triche. Hein. Yao a gagné à la loyale hein, avec des questions, voilà, quand même. Donc, ouais, le... Et on aura la preuve que le vrai spécialiste de Philippe Lachaud, c'est donc Yao.
Ah, putain de merde.
Ouais, voilà. Ah, là, c'est enregistré, quoi. Tu peux pas, montage Yao.
Ah, ça, il nous a bien fait chier avant l'enregistrement avec ça, et voilà. Et c'est lui qui remporte la manche grâce à Fifi.
Écoute, quoi, faut, je t'ai dit, il faut être ouvert, voilà.
À tous les cinémas. À tous les cinémas.
Voilà. Faut être bien ouvert. À Kev Adams, c'est à Fifi. C'est ça. Écoute, belle victoire, bravo Yao. Merci pour ce quiz, Julien. Et puis, bah, encore une fois, venez nous dire si vous avez vu l'Empire et ce que vous en avez pensé sur notre Discord. Quant à nous, on
juste un petit message. Juste pour dire qu'on vient de balancer un petit numéro avec Dim, enfin, mon ex collègue, hein, vu qu'il, depuis qu'il a annoncé son
petit numéro,
son amour pour la chose, je le vire. Donc, si quelqu'un veut postuler pour être mon binôme pour Yatacast, cette personne est la bienvenue. Donc voilà, on a balancé le numéro 2.
On parle de Yatacast
avec un guest.
Quelqu'un qui connaît quand même bien Babysitter, hein, le film de Chef Diao, s'il vous plaît.
Avec quel guest?
Bah, il y a des critères.
Dim,
hein,
c'était qui notre guest? Quand même, fais un peu la promo.
Ah, c'était Inaman Discovery, donc un youtubeur, on vous mettra les liens, on les a déjà partagés il me semble, mais on pourra les remettre. Et il vient de sortir une vidéo en plus, ce soir même, donc c'est quelqu'un qui fait surtout des vidéos, des rétrospectives sur des séries, des animés, bon, ça parle comics, manga, un petit peu de jeux vidéo, enfin tout ce qui est un petit peu pop culture, mais surtout très centré années 80-90, et... le mec est ultra passionné et du coup il rend ça vraiment passionnant. Il est très calé aussi, hein, je pense qu'il fait quand même pas mal de recherches pour ses vidéos. D'ailleurs, il nous le dit dans son entretien lors du podcast, je crois que c'était quoi, une trentaine d'heures pour une vidéo de 20 minutes.
Allez, écoutez tout ça, le podcast dure plus de 3 heures, donc vous avez de quoi faire.
Et donc vous, le but de ce podcast-là, c'était de l'interviewer lui,
en fait,
ou c'était
base,
de parler un peu de vos kiffs.
On a un sujet, donc c'était l'adaptation en jeu vidéo des animés. Pardon, des animés en adaptation en jeu vidéo. Voilà, et on s'est dit,
d'accord,
on va inviter
Inaman. Aussi, on a profité de l'actualité, on a fait des petites reviews de Godzilla Minus One et de City Hunter Angel Dust.
Et du parfum de Cupidon, je crois.
De la ça, en même temps, Inaman, il est fan de la show comme Dim, donc ils se ressemblent bien tous les deux. Donc
voilà, ça sera vois. Dans le troisième épisode de Yatacast qu'on aura viré Yao et qu'on le fera que à deux.
Voilà. Pouvoir au lâcher
le
fan.
Podcast la show, ouais. Hein, le podcast garanti homophobe. Et,
C'est ça. Blague raciste, homophobie et humour de mauvais goût. Comme ici un peu.
Comme
voilà.
Quoi, on
donc,
peut tout
parfait,
dire et faire des millions d'entrées, hein, quand même. Voilà. Voilà.
Bah, bien sûr, bien sûr. Cocorico.
Voilà.
Bah, ça me désole, hein, à titre personnel.
Bah, merci en tout cas. Oh, ça va. Le mec connaît par cœur Deep City, mais... Il ne croit plus maintenant. Bon, allez, on va quitter là-dessus. On vous dit à dans 15 jours pour une nouvelle œuvre. Et puis d'ici là, amusez-vous bien.
Salut.
Salut.
Fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ。かっぽけられた。